Thé combe. Feuille de trèfle. Chapitre 1. Feuille de trèfle était un club de trois membres qui poursuivait divers buts scientifiques, tels que l'observation des têtards dans un bocal, la chasse aux araignées d'eau, l'étude des nids de pie et, en général, toutes les branches de l'histoire naturelle qui comportent des escalades d'arbres ou des descentes dans les fossés. Les trois membres du club étaient Frédégonde d'Arvoine, Siméon et Ernest Aubert. Frédégonde était la fille du docteur. Ce prénom mérovingien lui avait été infligé par son père, qui avait parfois des idées bizarres, mais personne, sauf la bonne de la fillette, ne songeait à s'en servir. On le remplaçait par une foule de petits noms, Ferdine, Fredette, Friquette. Elle avait 13 ans. Siméon Taubert, le fondateur du club, en avait 15. Son frère Ernest, surnommé « Moi d'abord », était un petit garçon de 7 ans qui avait pour sa précieuse personne des soins et des égards dont on cherchait à le faire rougir par ce sobriquet et par de fréquentes remontrances. Sa tante, Mademoiselle Cornélie Borel, espérait qu'avec l'âge, il surmonterait cette vilaine et sotte disposition à se considérer comme le centre du monde et à traiter en esclave son frère Siméon, dont la bonhomie se laissait faire. Siméon était absorbé, distrait. Il ne songeait pas à défendre son indépendance. Pourvu que son frère ne lui saccageât pas trop ses collections, il lui abandonnait le reste. Jamais il n'eût mangé une pomme ni gardé une bille dans sa poche, sans Ferdine qui, de temps en temps, fondait sur Ernest quand elle jugeait la mesure de ses iniquités par trop pleine et l'obligeait à des restitutions douloureuses.
« Il m'a donné ce peloton de ficelle !» sanglotait Ernest. « N'est-ce pas, Siméon, que tu me l'as donné ?»«
C'est égal, rends-le-lui, » disait Ferdine, inexorable.
« Moi, d'abord, je trouve que c'est très mal de reprendre ce qu'on a donné, »
gémissait la victime. « Et c'est très mal aussi de ressembler à une vilaine sangsue qui suce son frère, » répliquait Ferdine. Le peloton de ficelle retournait de la poche d'Ernest à celle de son légitime propriétaire, jamais pour longtemps, il est vrai, car Siméon, voyant son frère en larmes, se hâtait de le consoler en lui rendant l'objet de ses désirs, aussitôt que Ferdine avait le dos tourné. Les trois enfants étaient voisins. Ils avaient fait amitié 4 ans auparavant, par-dessus le petit mur qui séparait leur jardin. Le docteur Arvoine venait de s'établir dans le village. Il était veuf et n'avait amené avec lui qu'une petite fille et une bonne. La bonne, qui s'appelait Mademoiselle Caton, se fit bientôt connaître chez l'épicier, ce boulanger et les autres fournisseurs par ses exigences et les aspérités de son langage. « C'est une vraie râpe à muscade, » disait l'épicier. Quant à la petite fille, on l'apercevait rarement. Mademoiselle Cornélie Borel voyait de sa fenêtre une fillette aux cheveux noirs merveilleusement abondants et fabuleusement emmêlés, aux yeux un peu sauvages, qui lisait, assise sur les marches du perron, ou qui errait seulette dans les allées du jardin. Cette petite a l'air d'avoir été peignée avec un clou. Sa bonne la néglige, se disait Mademoiselle Cornélie. Et la première fois qu'elle rencontra Mademoiselle Caton chez l'épicier, elle lui dit « La fillette du docteur a de bien beaux cheveux, mademoiselle. Seulement, il faudrait les soigner davantage. »
« Mêlez-vous de vos affaires, madame !» répondit agréablement Mademoiselle Caton.
De ce jour, elle nourrit des sentiments de rancune contre Mademoiselle Cornélie et, par ricochet, contre ses neveux. Un jour qu'elle surprit Siméon à cheval sur le faîte du mur, innocemment occupé à observer les allures d'un escargot, elle lui tira les oreilles sous prétexte que les escargots mangent les laitues. Siméon ne saisit pas très bien la force de ce raisonnement. Il mit son escargot dans sa poche et s'en alla fort indigné. Un autre jour, Ferdine, ayant des noix dans son tablier, les jeta par-dessus le mur à Ernest, enchanté de cette aubaine. Mais tout à coup, Mademoiselle Caton parut au bout de l'allée et cria
« Frédégonde, petite sotte, je vous défends de parler à ces polissons !»«
Je ne leur ai pas dit un mot, » répliqua la fillette. « D'ailleurs, ils sont très gentils !»
Alors sa bonne la saisit par la main et l'entraîna avec elle, la menaçant de toutes sortes de punitions effrayantes. Quelqu'un devrait en parler au docteur, se disait Mademoiselle Cornélie.
elle venait d'apercevoir la fillette aux cheveux ébouriffés, debout derrière la fenêtre de sa chambre, le front collé à la vitre, les joues couvertes de larmes, les épaules violemment secouées par des sanglots. « Cet état de choses ne saurait durer un jour de plus, » pensa la bonne mademoiselle Cornélie. « Les larmes de cette petite me seront redemandées. » Aussitôt, elle passa son mantelet noir, mit son beau tablier de taffetas, son bonnet à ruban violet, et se rendit chez le docteur Arvoine, dont c'était l'heure de consultation. À peine en face de lui, dans son cabinet aux boiseries peintes en gris et toutes couvertes de vieilles estampes, mademoiselle Cornélie se sentit un peu embarrassée. « Je ne viens pas vous consulter comme médecin, dit-elle. Je n'ai été malade de ma vie. » Puis il lui vint à l'esprit que c'était là une fâcheuse entrée en matière, que les docteurs doivent considérer comme des récalcitrants indignes de tout intérêt les gens qui n'ont été malades de leur vie. Elle s'arrêta court. « On voit en effet que vous jouissez d'une belle santé, et je vous en félicite, » dit le docteur. « C'est de mon père et de ma mère que je la tiens, » répondit vivement mademoiselle Cornélie, « et de leurs enfants ce qu'ils m'ont donné. La gaieté, le contentement, voilà ce qui fait le sang rouge et pur. Et voilà ce qui manque à votre petite fille. » Le docteur Arvoine regardait mademoiselle Cornélie d'un air aussi étonné que mécontent. Mademoiselle Cornélie se sentait monter aux lèvres un flux de paroles qui voulaient toutes sortir à la fois. La bonne de cette petite est une méchante femme, une pigrièche, l'enfant est malheureuse, cela se voit. Elle est négligée, mal coiffée, sa collerette tout de travers. Elle s'ennuie à périr, elle n'a pas même l'air de savoir jouer. Et dire que cette bonne lui défend de parler à mes neveux, les enfants les mieux élevés du village. « Charbonnier est maître chez lui, mademoiselle, » dit le docteur qui commençait à se fâcher. « Fort bien, laissez donc cette petite pleurer là-haut toute seulette. » Sans lui permettre d'achever sa phrase, le docteur se leva et sortit précipitamment. Mademoiselle Cornélie entendit des pas à l'étage supérieur, puis un bruit de voix. L'instant d'après, M. Arvoine rentra. « Elle pleurait, c'est vrai, » dit-il. « Les petites filles y sont sujettes. » « Je n'y étais pas sujette, moi, » répliqua mademoiselle Cornélie. Le docteur se rassit dans son fauteuil, le menton dans la main, l'air pensif. « Que voulez-vous que j'y fasse ? » dit-il, répondant aux reproches muets qu'il lisait sur le visage de mademoiselle Cornélie. « Je suis un homme fort occupé, je cours le pays du matin au soir. Mademoiselle Caton est une honnête fille. Quant à Frédégonde, rien ne lui manque. Je lui donne des livres, des poupées. » « Elle n'a pas un tempérament à poupée. Elle voudrait courir, grimper, déchirer ses robes, mais ces choses-là, il n'y a pas de plaisir à les faire seule. Permettez-lui de jouer avec mes neveux. Siméon trouvera le moyen de l'amuser, je vous en réponds. Il a toujours ses poches pleines de lézards, il apprivoise des scarabées, il est fou d'histoire naturelle. Quant à mon influence personnelle, poursuivit mademoiselle Cornélie en se redressant légèrement, « J'imagine que vous la trouverez préférable à celle de mademoiselle Caton. »« L'enfant n'a pas l'air très heureuse, assurément, » murmura le docteur. « Je vous remercie, mademoiselle. Frédégonde pourra jouer avec vos neveux. » Mademoiselle Cornélie s'en revint chez elle, triomphante. Une heure plus tard, Siméon rentrait de l'école, prit par la main son petit frère et se rendit au jardin. Les yeux fixés sur la maison du docteur, il attendit quelques minutes. Tout à coup, la fillette aux cheveux noirs descendit le perron, tenant à la main son chapeau qu'elle balançait d'un air hésitant. Enfin, elle surmonta sa sauvagerie et se dirigea vers le mur qui séparait les jardins. « On m'a permis de jouer avec vous, » dit-elle en jetant une pomme à Ernest comme préliminaire d'alliance. « Sais-tu grimper ?» demanda Siméon. « Non, mais je peux apprendre. Attends, je vais te montrer comment on fait. » Il franchit lestement le mur et quand il se trouva à côté de Ferdine, il lui indiqua un trou dans lequel elle devait poser le pied et un autre comme second échelon. « Essaie maintenant. Bon, t'y voilà. » Ferdine, debout sur le faîte du mur, repoussant d'une main ses cheveux, agitait l'autre avec enthousiasme. « Grimper n'est pas plus difficile que ça, » s'écria-t-elle. « Sautons maintenant, » dit Siméon, debout à côté d'elle. Ils sautèrent. Ferdine, faute d'expérience, arriva comme un plongeur, les mains étendues, dans un carré de chicorée. Elle ne se fit aucun mal et se releva d'un bond comme un petit chat. Ses yeux brillaient d'animation, mais sa brune petite figure restait grave. « Tu devrais rire, lui dit Siméon. Quand on est crâne, plus on tombe, plus on rit. »
« Je n'ai pas l'habitude de rire, répondit-elle en le regardant.
Il se sentit tout déconcerté. « Eh bien, tu t'y mettras, ce n'est pas difficile. Veux-tu que je te montre mes escargots ?» Il en élevait toute une colonie dans les grappacages d'une forêt de laitue plantée tout exprès pour eux. Ferdine, en les apercevant, ne s'écria pas que c'était d'affreuses bêtes. Elle prit délicatement le plus gros et le posa sur sa main. Siméon conçut aussitôt une grande estime pour sa nouvelle compagne. « Et les perce-oreilles, est-ce qu'ils te feraient peur » demanda-t-il. « Quand tu voudras, je t'en montrerai plus de 100 sous l'écorce d'un vieux saule, là-bas, près de l'étang du Moulin. Ce sont des bêtes intéressantes, mais il ne faut pas les déranger trop souvent. Tiens, regarde cette petite araignée pendue au bout de son fil. Comme elle dévide, comme elle dévide !» Oh, la gentille petite bête! Ils restèrent plus d'un quart d'heure en extase devant le palpitant spectacle. Tout à coup, Ernest s'écria : Les escargots se sauvent! En effet, l'armée des escargots se mettait en campagne, franchissant la barrière qui limitait son camp. Que dira ma tante ? S'écria Siméon. Faisons-les rentrer, vite, vite! Mais Ernest, au lieu de lui prêter secours, restait à l'écart. Il n'aimait pas à toucher les estardeaux. Siméon et Ferdine s'agenouillèrent devant le petit enclos pour barrer le passage aux fugitifs dont quelques-uns déjà, poussés par l'instinct des voyages, avaient gagné les laitues de Mademoiselle Cornélie. « Je les retrouverai bien, » dit Siméon. « Ils n'auront pas le temps de trouver beaucoup de feuilles. » Siméon savait le compte de son troupeau. Le dénombrement fait, 6 escargots manquaient à l'appel. Il se mit à leur recherche après avoir couvert l'enclos d'un treillis à mailles serrées. « J'en tiens un » s'écria-t-il triomphalement au bout d'une minute. Un second et un troisième déserteur furent également capturés avant d'avoir poussé trop loin leur pérégrination. Mais où donc étaient les 3 autres ? Siméon, penché sur le carreau de légumes, examinait anxieusement chaque pied de laitue, soulevait chaque feuille traînante. Tout à coup, un petit éclat de rire à demi étouffé se fit entendre derrière lui. Il tourna la tête. À sa grande surprise, il vit Ferdine assise par terre au milieu de l'allée, la figure cachée dans ses mains, riant, riant, comme une petite folle. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Siméon, le visage épanoui à la vue de cette gaieté. Ferdine étendit le doigt pour lui indiquer ce qu'il ne pouvait apercevoir. Ces 3 farceurs d'escargots montant en cortège le long de son propre dos. « Ah, les petits coquins !» s'écria Siméon quand il eut compris de quoi il s'agissait. « C'est égal, leur idée n'est pas bête. J'ai toujours soutenu, moi, que les escargots ont de l'esprit. « Mais tu vois bien que tu sais rire, » dit-il à Ferdine, quand les 3 hardis aventuriers furent réintégrés dans leur domicile. « Ça m'est venu tout seul, » répondit-elle. « Quel bien cela fait! Et pourtant, ça fait mal ici! Oh, terriblement mal !» ajouta-t-elle en appuyant ses 2 mains sur son côté. Était-ce vraiment son premier fou rire? Siméon n'en revenait pas. « Si c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière, » dit-il. « Les petites bêtes, vois-tu, c'est amusant comme tout. » Quand l'heure vint de se séparer, Ferdine fit une nouvelle ascension du mur, avec plus d'élégance qu'à son début, car elle retomba sur ses 2 pieds, promenant autour d'elle un regard brillant de triomphe. « Adieu » cria-t-elle en envoyant un baiser à ses nouveaux amis. « Je reviendrai demain. » Le lendemain, elle fit la connaissance de Mademoiselle Cornélie, qui put enfin réaliser un des souhaits de son cœur, coiffer décemment la petite. Elle lissa de son mieux cette chevelure aussi rebelle qu'abondante, la noua d'un ruban, et finalement donna un maternel baiser à Ferdine. « Cela ne ressemble plus à la crinière d'un lionceau, » dit-elle en prenant le menton de la fillette pour contempler son œuvre à longueur de bras. Les lionceaux n'ont pas de crinière, ma tante, fit observer Siméon, qui n'entendait pas compris des libertés avec l'histoire naturelle.
Tant mieux pour leur maman, dans ce cas. Maintenant, ma petite Ferdine, si tu veux être bien gentille, tu viendras ici chaque matin et je te montrerai à lisser tes cheveux toi-même. La petite n'était pas encore tout à fait apprivoisée. Elle dit merci à voix basse, passant une main furtive sur le ruban qu'elle trouvait bien joli, mais qui gênait un peu ses boucles folles, accoutumées aux grandes envolées. Puis elle regarda Siméon d'un air interrogateur. Il avait déjà toute sa confiance.
« Tu es bien mieux ainsi, dit-il.
Vrai ? Alors je viendrai chaque matin. »